Voilà, nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu et je vais vous faire ce matin un message un peu théologique, mais j'espère la théologie nous rejoint toujours dans notre vie concrète. Et je vous invite à lire quelques versets, d'abord dans le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 44, les versets 6 à 8. Ésaïe 44, versets 6 à 8. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui le rachète, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui peut se prononcer comme moi? Qu'il l'annonce, qu'il me l'expose. Depuis que j'ai fondé le peuple d'éternité, qu'ils annoncent donc les événements et aussi ce qui doit arriver. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Ne l'ai-je pas depuis toujours fait? Faites entendre et annoncez. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a point d'autre rocher. Je n'en connais point. Et un peu plus loin, chapitre 48, versets 12 à 15, le Seigneur annonce des événements à venir. Et il dit, « Écoute-moi, Jacob, Israël, que j'ai appelé. C'est moi, moi qui suis le premier, et c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre, ma droite a déployé les cieux. Je les appelle, tous ensemble, ils se présentent. Vous tous, rassemblez-vous, écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces événements? Celui que l'Éternel aime exécutera ses désirs contre Babylone. » Son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Moi, j'ai parlé, je l'ai appelé, je l'ai fait venir. Son œuvre réussira. Le Seigneur parle ici de Cyrus qui va venir dans les temps à venir. Approchez-vous de moi, écoutez. Dès le commencement, je n'ai pas parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'étais là. Maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Et puis, on revient au Nouveau Testament, on continue, et au livre de l'Apocalypse, nous retrouvons encore un écho de ces phrases, mais cette fois-ci en relation avec le Seigneur Jésus. Jésus apparaît à Jean dans une vision du Seigneur glorieux, et voilà ce qu'il dit, verset 18 du chapitre 1 de l'Apocalypse. « Moi, donc c'est Jésus qui parle, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et me voici vivant. » Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et tout à la fin du livre de l'Apocalypse, alors qu'on envisage le moment ultime de l'histoire, Apocalypse 20, versets 12 et 13. Voici, je viens bientôt, dit le Seigneur Jésus, j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Nous revenons en Alsace après un long parcours, Hélène l'a dit. Comment, pour les uns et les autres, aborder les étapes et les différents temps qui font la trame de notre vie? Nos temps sont singulièrement entremêlés. D'un point de vue extérieur, on a l'impression que nos temps sont déterminés par certains rythmes. Ils sont faits de matin, de soir, de semaine, d'année. C'est ainsi que les choses tournent. Plus près de notre vécu personnel, nous connaissons les rythmes réguliers de notre travail, de nos loisirs, de nos engagements. Parfois, certains projets s'invitent sous forme d'une orientation nouvelle, d'un engagement qui nous est proposé, d'un changement qui s'impose. Et voilà que tout s'anime. On rêve, on se projette, on s'inquiète peut-être, on se sent déstabilisé, ou au contraire, on se sent des ailes. Nous sommes marqués aussi par les événements de ce monde, tantôt heureux, tantôt écrasants, faits d'engouement et de modes parfois bien futiles, faits aussi de ces macrostructures invisible, inaudible, mais tellement efficace pour imposer des réalités très lourdes, contraintes économiques et autres. Partout, ombres et lumières se mêlent. Notre quotidien, notre morale sont affectés par ces différentes teintes de lumière. Nous vivons tout cela et nous en avons si peu de maîtrise. Alors bien sûr, nous nous organisons, nous structurons notre vie, nous faisons nos projets, nous poursuivons des objectifs. Mais il en faut peu pour que tout bascule. Un instant, un événement peuvent remettre en question un avenir bien programmé. Et ici, nous lisons cette affirmation que l'on trouve à plusieurs reprises dans la Bible. « Je suis, dit le Seigneur, le premier et le dernier. » C'est le Seigneur qui parle, le Seigneur Dieu, l'unique face aux idoles dans l'Ancien Testament, l'unique venu vers nous en Jésus-Christ. Quelle perspective nous apporte cette vision de notre Dieu? Parler du premier et du dernier, c'est adopter une perspective de commencement et de fin. Des fins, des commencements, nous en connaissons beaucoup. Cela fait partie des éléments qui structurent notre vie quotidienne, qui font vraiment la trame de notre vie. Elle est faite de commencements, de fins, de recommencements. Les commencements, ils peuvent prendre plusieurs teintes. Ils sont souvent pleins d'espérance, pleins d'anticipation. On espère le meilleur. Mais il arrive aussi qu'ils soient teintés d'angoisse. Le commencement d'une étape que l'on sait difficile, incertaine, n'est pas facile du tout. Il arrive parfois que certains commencements, on les aborde un peu à reculons. Les commencements avec leurs différences. Les fins sont en général plus claires, plus nettes. La fin d'une chose, c'est le temps du bilan, le temps des aboutissements. La fin dit la vérité d'une chose bien plus que son commencement. Certaines fins sont plus heureuses que ce que ne laissait présager le commencement. Ce sont les fameux happy ends, le miracle des happy ends, lorsque tout se termine bien. On aime ça dans les films, on aime ça aussi dans la vie, c'est vrai, confessons-le. D'autres fins arrivent sans surprise, dans la juste logique des choses. On parle alors parfois de la chronique d'une fin annoncée. C'est ces choses qu'on voyait venir et qui arrivent. Parfois la fin surprend, prend de court, déjoue les pronostics. Et c'est pourquoi l'Ecclésiaste dit avec sagesse, « La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. » Alors, ça ne semble pas vrai pour tout. Qui dirait ça des vacances? Mais si on y réfléchit, même la fin des vacances vaut mieux que leur commencement si ces vacances nous ont apporté un vrai bienfait. Il faut quand même le reconnaître. Les fins qui disent vraiment la vérité des choses. Ça m'arrive parfois de penser à ma vie comme à une série de boucles. C'est intéressant de réfléchir un petit peu à cela. On commence une chose, on la termine, ça fait une boucle. On part et on revient, ça fait une boucle. Le soleil se lève, le soleil se couche, ça fait une boucle. C'est impressionnant le nombre de boucles comme ça qu'on peut identifier dans notre vie. On a l'impression que beaucoup de choses se font comme cela pour nous. Mais cette vie, c'est une vision des choses qui peut être trompeuse et réductrice si on ne voit que la vie comme cela. Car une fois qu'on a repéré une boucle, il ne suffit pas de dire simplement « il y a un commencement, il y a une fin, on est parti, on revient ». La question à se poser quand on repère une boucle, c'est aussi de se dire « mais qu'est-ce qui s'est passé entre le départ et l'arrivée ?» Si je reviens au point de départ, ok, est-ce que j'ai gagné quelque chose? Est-ce que quelque chose s'est passé pour moi? Est-ce que quelque chose s'est construit? Qu'apporte cette boucle que je peux repérer? Et c'est un regard assez important à avoir si on regarde notre vie avec toutes ces boucles qui la constituent, car autrement tout peut sembler bien plat et sans vrai sens. Chaque lundi matin, je vais courir. Je fais exactement le même circuit tous les lundis matins. Pendant 14 ans à Paris, j'ai fait le même circuit tous les lundis. Je peux vous réciter la boucle dans tous ses détails, je connais chaque instant, etc. Mais pourtant, entre ces deux moments du départ et de l'arrivée, il y a tant de choses qui se passent. La joie de l'effort, le bonheur de ce temps qui n'appartient qu'à moi, le bienfait que cela m'apporte. Et ça, c'est tout autre chose que de dire simplement « je suis parti, je suis revenu au même point ». Et cela se vit régulièrement. Une boucle. Vous savez que certains voient toute la vie et toute la réalité comme une immense boucle repliée sur elle-même. Le commencement et la fin sont identiques. Ce qui est premier, c'est ce qui est et ce qui sera la fin, car tout retourne à son origine. C'est la pensée hindoue en particulier. La pensée hindoue dit cela. Tout n'est qu'une boucle repliée sur elle-même. La réalité est comme un foyer qui ressemble à des braises ardentes. Il y a des étincelles qui sortent de ce foyer, qui ont l'impression d'avoir une consistance, et ça c'est notre vie sur la terre. Mais finalement, ces étincelles, elles vont retomber dans le foyer. Et leur véritable réalité, c'est d'être là, dans le foyer originel. Ce qui était autrefois, ce temps en suspension, n'était qu'une illusion. Voilà une pensée qui fait de cette boucle simplement la seule réalité. L'existence propre n'est qu'une illusion. Une vision des choses que conteste l'Écriture, bien sûr. Le premier, le dernier, le commencement, la fin du chose, un nouveau commencement, une nouvelle fin. Sous ces mots simples, c'est juste le sens de notre vie que nous évoquons. Sur quoi débouche notre vie? Que réalise-t-elle? Qu'est-ce qui lui permet d'aboutir? Je suis le premier et le dernier, dit le Seigneur, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Dans quel sens nous faut-il recevoir cela? Il y a d'abord, il faut le reconnaître, un sens absolu à cette expression. Je suis le premier et le dernier, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Ésaïe 44, verset 6. Cette parole s'inscrit dans le cadre de la dénonciation des idoles. Et le Seigneur s'affirme par cette expression, par ces mots, comme le seul et unique vrai Dieu. En dehors de lui, il n'y a rien ni personne qui puisse revendiquer le titre de Dieu. Or, il y a bien sûr d'autres divinités, ça existe. Mais ces divinités ne sont que des projections humaines. Elles n'ont pas d'autre consistance que simplement ce que donne le désir humain. Elles n'ont pas d'autre réalité que ce que forge l'esprit humain. Pour les gens, ce sont des dieux, mais en elles-mêmes, ces réalités n'ont aucune subsistance. Ésaïe montre cela, il a un moment où il se moque de des idoles, en disant « ces idoles, on prend du bois pour les assembler, on met des clous, etc. » Et il se moque vraiment de cela. Mais en se moquant de la fabrication matérielle, il ne se moque pas du fait simplement qu'on fait une idole en bois, mais c'est toute la fabrication spirituelle, mentale qu'il dénonce en disant « mais finalement, ces divinités, c'est que le produit de vos besoins, de ce que vous êtes en train de construire. C'est ça l'idole. J'ai besoin et je me crée moi-même quelque chose qui répond à mes besoins. » Et c'est dans ce contexte que le Seigneur déclare « Je suis le premier et le dernier ». C'est une façon de dire « Il n'y a que moi, je suis l'unique Seigneur. C'est moi et moi seul qui possède ce qui fait que Dieu est Dieu. Personne d'autre à côté. Je suis le premier, je suis aussi le dernier, car je suis l'unique. » Et voilà un discours qui heurte ce que l'on entend et ce que l'on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de la foi, de Dieu, on parle en général des spiritualités. Aujourd'hui, il n'y a que des spiritualités. Et parler des spiritualités, ça veut dire quoi? C'est d'abord un discours qui part de l'homme, qui part de l'homme, qui part de nos aspirations, de notre besoin de croire. Et ce besoin de croire crée toutes sortes de spiritualités. Si on part de là, aucune spiritualité ne peut s'affirmer supérieure à une autre. J'ai besoin de croire, ce qui va compter, c'est que cette spiritualité remplisse mon besoin de croire, quel qu'en soit le chemin. La grande question pourtant est de savoir si le besoin de croire crée juste son propre apaisement ou s'il rencontre un vrai vis-à-vis réel et distinct de nous. C'est une chose de dire « j'ai besoin d'un Dieu », c'est une autre chose que de dire « il y a un Dieu qui est là en face de moi ». C'est toute la question que pose Ésaïe dans sa lutte contre les idoles, contre les fabrications humaines. Est-ce que Dieu n'est que le résultat de notre besoin de croire ? Et l'intransigeance du Seigneur à dire « je suis le premier et le dernier, hors de moi il n'y a point de Dieu », c'est un appel salutaire. Assurons-nous que nous plaçons notre foi en celui qui mérite cette foi, parce qu'il a la consistance du Dieu vivant et vrai. Mais une fois qu'on a dit ça, comment savoir qui est ce Dieu vivant au milieu de tant de croyances, au milieu de tant de besoins de croire que l'on se forge? La réponse d'Ésaïe est que le Dieu vivant s'atteste dans l'histoire. Il est le premier. Il est à l'origine de toute chose. Il met en œuvre des projets qui sont les siens. Il est le dernier. Ce qu'il décide, ce qu'il annonce, il l'accomplit aussi. Non seulement donc le premier et le dernier parce qu'il est l'unique, qu'il n'y a pas d'autre, mais aussi le premier et le dernier à cause de son action dans l'histoire, où ce qu'il commence, ce qu'il projette, il le réalise, il l'achève. Et Ésaïe a ici un message très particulier. Israël, à son époque, est tenté vraiment par l'idolâtrie, tous ces faux dieux qui existaient partout autour. Et pour bien marquer sa différence, le Seigneur annonce 130 ans à l'avance qu'il y aura un exil à Babylone et qu'il y aura un retour de l'exil. Au moment où Ésaïe parle au peuple de Juda, le peuple de Juda est encore dans son pays, tranquille, ça va. Babylone n'est pas encore du tout la puissance dominante. Ésaïe va jusqu'à donner le nom du souverain par lequel le retour de l'exil qu'il annonce se réalisera, un membre de la dynastie perse des Cyrus. Et au moment où Ésaïe parle, les Perses n'étaient pas du tout sur les devants de la scène politique. Et Dieu prend ici les devants pour s'attester lui-même. Il annonce des choses qui ne sont pas encore. Et il précise, au chapitre 48, verset 5, « Je t'annonce dès longtemps ces événements. » Je te l'ai fait entendre avant qu'il n'arrive, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui l'a faite. Il faut s'attester. Et Dieu s'atteste en disant, bien à l'avance, je vous dis ce qui va être, et vous verrez la différence. Dieu s'atteste comme un Dieu d'initiative, un Dieu qui fait des promesses et qui accomplit dans l'histoire ce qu'il a dit. Et ça, c'est tout autre chose de dire, j'ai besoin de croire et je me crée la petite chose qui va m'aider à être bien. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, dit le Seigneur. C'est moi qui suis le premier, c'est moi aussi qui suis le dernier. Dieu s'atteste donc en agissant dans l'histoire. Et alors, agir dans l'histoire, qu'est-ce que cela veut dire, si on essaie de prendre de manière large ? C'est d'abord, si on remonte très loin, c'est vouloir qu'il y ait une histoire. Et ça, c'est la vision biblique de Dieu. Dieu est celui qui a voulu qu'il y ait une histoire. Il est le Créateur, celui qui donne existence et vie. Après avoir créé les êtres vivants, il les bénit, nous dit le récit de la Genèse. Et c'est magnifique cette expression de créa et Dieu bénit, c'est-à-dire Dieu lance dans l'histoire. Et Dieu lance dans l'histoire avec son regard bienveillant, pour qu'il y ait une histoire. Dieu donne un avenir. Dieu veut pour les humains cet avenir. Et Dieu agit ainsi donc parce qu'il veut qu'il y ait une histoire. Il forge des projets pour l'histoire de l'homme. Il fait avancer l'histoire. Il veut qu'elle avance. Il la tire en avant vers des rendez-vous qu'il fixe lui-même. Il fait travailler mille et une choses dans ce sens. Il intègre aussi nos décisions, nos actions dans ce plan qu'il élabore. Il accompagne, il suscite des initiatives qui deviennent vraiment des pièces du puzzle. Il agit directement là où il le faut parfois. Il maîtrise les petits aiguillages qui font la différence en temps voulu. Dieu veut qu'il y ait une histoire. Mais avec tout cela, ça veut dire que justement l'histoire humaine, l'histoire n'est pas une boucle qui se referme sur elle-même sans aucun sens. Elle est au contraire un projet qui se construit. La fin est différente de l'origine. Les temps marchent vers une réalisation. Et notre vie elle-même prend sens à l'intérieur de ce mouvement. Nos actes vont pouvoir compter parce qu'ils peuvent entrer dans ce projet global. Nos actes sont intégrés, deviennent significatifs. Les boucles de nos vies dont nous parlions tout à l'heure ne sont pas des bégaiements, mais participent à une construction, là même où nous ne saisissons pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. C'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le dernier. Dieu veut qu'il y ait une histoire, et c'est un magnifique cadeau qu'il nous fait et qui nous délivre du non-sens, de quelque chose qui ne serait qu'une boucle qui retombe sur elle-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait aucun non-sens. À cause du mal, le monde a été soumis à la vanité, à l'impermanence, à bien des choses qui n'aboutissent pas. Mais le Seigneur surmonte ces segments de non-sens en les intégrant dans une œuvre plus grande qu'il réalise et qu'il connaît. Dieu veut donc qu'il y ait une histoire. C'est un grand cadeau qu'il nous fait. Mais il vient aussi nous montrer qu'il est autre chose qu'une simple idée humaine en agissant lui-même dans l'histoire. C'est la deuxième chose. Dieu s'atteste lui-même dans l'histoire des hommes. C'est ce qu'il a fait à des moments clés de l'histoire des hommes pour nous donner des repères clairs où il s'atteste comme étant vivant, indépendant de notre besoin ou pas besoin de croire. Il intervient dans des situations humainement impossibles pour réaliser ses promesses et donne ainsi à Abraham la postérité qu'il avait promise et à un moment où les possibilités humaines n'existaient pas. Il se manifeste par des actes puissants comme la sortie d'Égypte. Il accomplit ce qu'il avait annoncé bien à l'avance comme le retour de l'exil grâce à Cyrus, roi de Perse, annoncé par Ésaïe une centaine d'années à l'avance. Il s'atteste en Jésus-Christ, qui a revêtu notre humanité, qui a manifesté en tous ses actes le règne, la puissance de Dieu. Il s'atteste par toutes les prophéties que Jésus accomplit dans le détail parfois, et qui s'éclairent magnifiquement tout d'un coup en lui. Tout d'un coup, on se rend compte, mais oui, tout cela qui avait été annoncé, mais c'est là, c'est accompli. Il s'atteste plus encore, plus décisivement encore, par la mort et la résurrection du Christ. La résurrection du Christ, qui est l'événement le plus décisif de toute l'histoire humaine. Dieu montre là qu'il est capable d'intervenir, lui, souverainement, dans l'histoire, et de poser là un acte fort qui dit qu'il est le Seigneur, le vainqueur, et la résurrection qui apporte avec elle toute l'espérance de la vie éternelle, de la victoire sur la mort. Croire en Jésus ressuscité, c'est pas juste croire en quelqu'un. J'ai besoin d'avoir une espérance et donc je crois que cette espérance se réalisera. Croire en Jésus ressuscité, c'est avoir en face de moi le fait que Dieu est intervenu dans l'histoire. Dans l'histoire, et je dois me situer face à ça. Et que Jésus soit ressuscité ne dépend ni de mon besoin, ni de mon manque d'envie de croire. C'est quelque chose que Dieu a inscrit lui-même. Et puis Dieu s'atteste ensuite et encore dans nos vies par l'action de son Esprit qui crée en nous des dispositions dont nous n'avons pas les ressources si souvent. Et il se manifestera pleinement encore lors du retour en gloire de notre Seigneur Jésus. Et on comprend que le Christ glorifié reprenne à son compte ses paroles et dise « Je suis le premier et le dernier et le vivant ». Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le commencement et la fin. Jésus manifeste cette vérité de Dieu dans l'histoire des hommes. Et voilà le Seigneur qui se présente ainsi, et non seulement en parole, mais en vérité, avec toute la consistance de son engagement. Et c'est maintenant que nous pouvons laisser résonner en nous ces deux expressions, « Je suis le premier et le dernier ». Dieu s'atteste, oui, mais prenons le temps de penser à ce que veut dire le premier, le dernier. « Je suis le premier », nous dit le Seigneur. Et par là, le Seigneur nous dit tout ce qu'il y dit ici dans nos vies, sa capacité à apporter du neuf dans nos vies, toutes ces initiatives qui sont les siennes. « Je suis le premier ». Nous voilà tous chavirés en essayant de penser à ce que cela signifie, en laissant résonner cela en nous. Tout vient de lui. Il est le premier, tout vient de lui. Quoi que je connaisse de beau, quoi que je connaisse de bon, c'est lui qui l'a créé. Quoi que j'admire de sagesse, d'intelligence dans ce monde, c'est sa sagesse, c'est son intelligence. Toute cette complexité magnifiquement ordonnée de l'infiniment grand à l'infiniment petit, c'est encore lui. Il est le premier, l'initiative de tout cela. La source de laquelle tout découle. Une source qui a tellement de profusion. Avant que je n'existe, déjà il me connaissait. Déjà il me voulait. Il est le premier. C'est lui qui me donne faim et soif de lui aussi. C'est lui qui m'a cherché pour que je puisse m'ouvrir à lui. C'est lui encore qui fait les promesses de la vie éternelle. Et ce n'est pas juste un beau rêve que nous nous sommes faits, mais c'est lui qui l'initie. C'est lui qui nous pardonne. Il est le premier dans son amour. C'est lui qui nous réconcilie. Il est le premier, tout est de lui. Tout est grâce. Tout est authentiquement cadeau. C'est juste magnifique de le penser. Et ça vaut la peine de laisser résonner cela en nous pour voir combien, avec quelle générosité, avec quelle largeur le Seigneur est ainsi le premier à l'origine de tant de choses. Il est le premier, mais il est aussi le dernier. Ce qui veut dire que c'est lui qui aura le dernier mot. C'est lui qui aura le dernier mot, le mot qui compte, le mot de la fin sur toute chose. Job, dans sa difficulté, disait « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Il se lèvera le dernier sur la terre. Même si pour lui, à ce moment-là, la terre voulait dire vraiment la poussière, la difficulté. Pour nous aussi, dans notre vie, le Seigneur est et sera le dernier à se lever sur tout ce que nous sommes, sur tout ce que nous vivons. Pour nous aussi, peut-être, il sera le dernier. Nous ne savons pas ce que réserve notre avenir, mais nous savons que si nous lui remettons notre vie, il aura, lui, le dernier mot pour nous. Nous ne savons pas toujours l'aboutissement de ce que nous vivons aujourd'hui, maintenant, dans telle ou telle circonstance, mais il se lèvera le dernier pour nous dans ce que nous vivons aujourd'hui. Il ne nous laissera, si nous lui remettons vraiment notre vie, il aura le dernier mot sur toute chose. Il ne nous laissera pas en plan. Il accomplira les projets qu'il a pour nous. Sa parole ne restera pas sans effet pour nos vies. Elle exécutera sa volonté. Elle réalisera ses desseins. Il ne laissera pas ses promesses se déliter. Il les a faites le premier. Il en assurera le dernier, le plein accomplissement. Son œuvre en nous aussi, il l'achèvera, il la rendra parfaite en nous au jour de Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Paul. Le Seigneur n'est pas juste pour nous le Dieu des commencements flamboyants et des promesses étincelantes. Il honore ses promesses, il veille sur sa parole, il persévère dans ses engagements, il fait aboutir ce qu'il commence. Et pour nous aussi, en toutes choses, il sera le dernier. Et nos temps à nous, nos temps si divers, avec leurs différents segments, mais ils se situent entre ces deux repères qui demeurent. Dans tous les segments de notre vie, le Seigneur est le premier, le dernier. Et entre le repère de la grâce de Dieu, de son initiative, et le repère de sa persévérance et des aboutissements qu'il s'est donné à sa persévérance. Et ces deux repères, le premier et le dernier, la grâce initiale de Dieu, les aboutissements, ne sont pas juste les repères qui disent le tout début et la toute fin de toute chose, mais de tant de manières et en tant de situations, Dieu veut encore se montrer pour nous dans ce que nous vivons, dans tout le segment de notre vie, comme le premier, le dernier. Celui qui a le premier mot, le dernier mot. Parfois, ces deux bornes entre le début et la fin sont rapprochées. Parfois, elles sont plus distantes. Nous ne maîtrisons pas la distance. Ça appartient à Dieu seul. Mais il est le premier, le dernier. Il veut l'être pour nous. Et ce qui veut dire que nos temps, dans leur diversité, avec ces différents segments qui font notre vie, s'éclairent de cette certitude. Parce que Dieu est le premier et le dernier, nos temps sont appelés à devenir le temps de la confiance en ce Dieu qui est initiative et aboutissement. À être aussi des temps de l'attachement envers celui qui s'est si généreusement attaché à nous. À être parfois les temps de l'attente. Si la promesse tarde, attends-la, nous dit le prophète Habacuc. À être le temps de la persévérance, mais d'une persévérance sereine, comme celle des guetteurs qui attendent et qui comptent sur le matin. Le temps aussi de la foi agissante, de l'intercession, parce que nous avons confiance dans ce Dieu qui fait ses promesses et qui les honore. Le temps de l'humble dépendance qui dit chaque jour, « Seigneur, fais-moi dès le matin entendre ta bienveillance, car je me confie en toi. » Le temps de la sérénité, parce que nous savons en qui nous avons cru. Entre ces deux bornes de l'action de Dieu, qui est le premier et le dernier, nous ne serons jamais seuls, jamais abandonnés. Et qu'il est beau d'entendre le Seigneur Jésus compléter la formulation d'Ésaïe, « Je suis le premier et le dernier », et d'ajouter « et le vivant ». Et le vivant. Celui qui parle ainsi, c'est le Seigneur Jésus. Après s'être manifesté dans notre histoire par son incarnation, après avoir manifesté sa solidarité totale en prenant sur lui notre condamnation, après avoir achevé l'œuvre du salut par sa mort, sa résurrection, après être remonté au ciel. En tout cela, il s'est attesté comme le Seigneur l'unique et maintenant, il s'offre encore à nous comme le vivant. Et le vivant qui marche au milieu de son Église, et le vivant qui tient entre ses mains tous ceux qui lui appartiennent. Il est l'alpha et l'oméga. Il conduira l'histoire à son terme. Il la fera nouvelle, absolument nouvelle, éradiquée de tout mal. Il la conduira jusqu'à son terme. Et nous sommes entre ses mains, lui qui est le premier, le dernier, le vivant. Et son regard nous suit, nous accompagne. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Soyez bénis en pensant à tout cela, en le recevant de notre Dieu. Amen.